Qu'est-ce que tu fais ?
Je me prépare un sandwich pour ce midi.
Pour l'instant, nous n'avons pas évoqué ce qu'est la psychanalyse, mais plutôt ce qu'elle n'est pas. Les trois premiers chapitres n'étaient qu'une introduction nous approchant du thème. Mais aujourd'hui, nous entrons dans le vif du sujet. Pour la première fois, je vais interviewer un psychanalyste. Le rendez-vous est pris dans le centre-ville de Nantes, près de la gare SNCF. Un voyage en tram-train, une petite balade à pied, et je devrais être sur place en moins de 2 heures. Les trois premiers épisodes d'En cours d'analyse reposaient essentiellement sur 4 interviews. Or, j'ai conservé par devers moi des fragments de ces 4 entretiens. Fragments qui n'avaient pas leur place dans l'introduction et qui maintenant me semblent présenter un intérêt. En réécoutant ces rushs, je me suis rendu compte que, mis bout à bout, ils pourraient dessiner une sorte de chronologie, certes très approximative, irrégulière et lacunaire, mais qui permettrait de donner une petite idée de la place que la psychanalyse s'est faite dans l'histoire contemporaine et de poser quelques jalons utiles pour la suite du podcast. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une promenade le long de cette frise chronologique, radiophonique, polyphonique. Lorsque vous entendrez cette voix,
je vais essayer de parler clairement.
Il s'agira de Nathalie Labrousse-Marchaud, professeur de philosophie en lycée. Quand vous entendrez celle-ci...
Tu peux savoir le son.
C'est son ancien prof de philo qui parlera, Yvan Etiambre. Ce timbre...
Ou je ne vais pas savoir répondre.
Il appartient à Francis Pommier, jeune retraité de la psychiatrie. Celui-là...
J'ai des piles si vous voulez.
À Coralie Chambon, psychologue. Et pour son 4e chapitre, En cours d'analyse s'enrichit d'une nouvelle voix.
C'est au 5e étage, vous rentrez directement et vous allez dans la salle d'attente.
Celle de Bernard Porcheret, psychiatre à Nantes et psychanalyste. Bernard Porcheret est membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Il est également président coordinateur de l'UFORC à Nantes, l'Union pour la formation en clinique analytique. Et très occasionnellement, il est répétiteur d'anglais. Et oui, en ce moment, Alain, vers qui je me tourne habituellement pour parler l'anglois, est en Australie. Alors, j'ai eu recours à un remplaçant. Mai 1856. De parents juifs, Sigmund Freud naît à Freiberg, une petite ville de l'Empire d'Autriche située dans l'actuelle République tchèque. 1860. La famille Freud s'installe à Vienne. Sigmund y résidera jusqu'à l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie en 1938. 1881. Freud obtient son diplôme de docteur en médecine. Il va approfondir ses connaissances en neuropathologie.
Il y avait plusieurs personnes qui s'occupaient de psychanalyse au moment même où elle naissait. Et ils étaient souvent beaucoup du côté d'une psychologie un peu ombrageuse, ou des pratiques de suggestion, des pratiques assez diverses.
Octobre 1885, février 1886. Freud poursuit sa formation à Paris, à l'hôpital de la Salpêtrière. Dans le service du très renommé Jean-Martin Charcot, il étudie les paralysies hystériques.
Pour reprendre les choses à leur début, puisque je vois que vous avez sur la table la naissance de la psychanalyse,
Gloops.
Ce qui a intéressé Freud, c'est la manière dont les gens qui étaient affectés d'un symptôme, une paralysie hystérique par exemple, une cécité hystérique, c'est-à-dire sans support organique comme tel, comment Freud, au fond, a procédé. Alors déjà, je crois qu'il y a un article de Freud qui s'appelle
« Quelques considérations pour une étude comparative des paralysies motrices organiques et hystériques ».
où Freud fait bien la différence entre ce qu'est une paralysie organique liée à un accident vasculaire cérébral, par exemple, où d'ailleurs on retrouve des séquelles paralytiques, par exemple le côté droit, membre supérieur, membre inférieur, enfin des séquelles plus ou moins importantes. Et puis on va retrouver au niveau facial une déformation, une séquelle, en tout cas paralytique, au niveau du visage, du côté opposé, paralysie organique. Et comme on a pu, à partir d'un certain moment dans l'histoire de la médecine, faire de l'anatomopathologie, ouvrir les cadavres, eh bien, on s'est aperçu que c'était organisé comme ça, les paralysies organiques. Il se trouve que cliniquement, on pouvait constater qu'il y avait des paralysies qui ne présentaient pas cette alternance entre côté droit, côté gauche, comme dans les paralysies organiques. Et donc Freud écrit un article à ce propos-là. Freud s'est intéressé à l'hypnose. Il est venu donc suivre le cours de Charcot en France. En fait, Freud ne s'intéressait pas tant à l'hypnose qu'à ce que les patients pouvaient dire à un hypnotiseur. Il s'est inspiré quand même de la pratique hypnotique au début, mais il s'en est séparé très vite, puisqu'il l'indique d'ailleurs dans un texte. Il dit que c'est la manière dont les personnes, spontanément, après avoir exposé leurs symptômes, se mettent à parler de leur histoire familiale, de leur père, de leur mère, de leur tante, etc., de leur grand-père, enfin, peu importe, et que c'est ça qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était que, à partir du moment où on ne répondait pas ni par une suggestion, ni par un savoir médical, à partir du moment où on disait simplement au patient « revenez la prochaine fois », dites ce qui vous passe par la tête, l'association libre, eh bien, il y a eu cette surprise pour Freud, que le patient se mettait à parler de toute autre chose que de ce pourquoi il était venu au départ.
Tiens, il y a des vaches par ici.
Et ainsi, la technique de l'association libre s'est mise en place. Alors ceci dit, ça a été assez laborieux au début. C'est-à-dire que Freud était quand même un peu du côté de la suggestion. Il essayait d'imposer ses interprétations. Et d'ailleurs, il mettait la main sur le front du patient. C'était devenu tellement fatigant d'ailleurs qu'il s'est dit... Peut-être qu'il serait mieux allongé sur un divan et moi je pourrais me mettre derrière. Ça avait un avantage aussi, c'est que ça provoquait une soustraction du regard. Mais ça, il ne l'a pas thématisé comme ça au départ. C'était tellement laborieux d'une certaine manière, les séances d'analyse au départ, que ça a permis à Freud de conceptualiser le concept de résistance. Il s'est dit, à un moment donné, si... je dépense une telle énergie à essayer de convaincre de mon interprétation le patient, et lui la refuse. Et il doit mettre, lui, une énergie équivalente pour contrer ce que je lui disais. Il résiste. C'est l'invention de la résistance. Et Freud, bien sûr, sa technique a beaucoup évolué au fur et à mesure, parce qu'il s'est écarté de plus en plus de la suggestion. Donc la psychanalyse est avant tout une pratique, une expérience. C'est une expérience. L'expérience psychanalytique. C'est une pratique où on écoute ce que le patient peut dire spontanément par association libre. Association libre, ça veut dire dites ce qui vous passe par la tête en essayant d'ôter toute critique, autocritique de ce que vous dites vous-même. Ne vous censurez pas quand vous parlez, en quelque sorte. Ce qui amène forcément des surprises. Et c'est ça qui importe, c'est qu'un sujet, au fond, peu à peu, se met à dire des choses qui le surprennent. Et même, parfois, il s'aperçoit qu'il ne sait pas ce qu'il dit quand il parle. Il formule un énoncé et la dadaïste, par exemple, peut souligner le mot qui a été dit, mais qui entre en homophonie avec un autre mot qui peut avoir un sens tout à fait différent. C'est-à-dire, au fond, ce que la psychanalyse met en évidence, c'est l'équivoque de la langue.
Oh, dis donc, elle a des belles cornes, celle-là.
La langue est fondamentalement équivoque dans l'espèce humaine. C'est-à-dire que ce que soutient la psychanalyse, c'est que quand on parle, on ne sait pas trop ce qu'on dit. Entre les mots, en quelque sorte, entre les mots, entre les lignes, quelque chose court que l'autre peut entendre. « Ah, je ne savais pas que j'avais dit ça. Ah oui, je réalise que, effectivement, tu as entendu ce que je viens de dire autrement que ce que je voulais dire. » Souvent, d'ailleurs, dans les conversations courantes, les gens entre amis se disent « Mais c'est pas ça que je voulais dire. L'autre a entendu autre chose. » Il y a toujours des écarts très importants. Donc, la psychanalyse repose sur le fait que, quand on parle, on ne sait pas ce qu'on dit. On dit autre chose. Et c'est pour cela qu'il ne suffit pas d'écouter quelqu'un parler. C'est important d'écouter quelqu'un qui parle quand on est analyste. Mais il faut aussi interpréter. C'est-à-dire faire entrevoir à l'analysant ce qu'il ne savait pas qu'il disait en disant telle ou telle chose. À travers un lapsus, à travers l'homophonie, comme je viens de dire, à travers un rêve, par exemple, quand un patient apporte un rêve. Donc, l'expérience analytique se fonde sur le fait que le langage est foncièrement, le langage humain est foncièrement équivoque.
C'est ça. Donc, d'accord. L'idée d'inconscient. Ça a été la remise en question de cette idée, ou plus exactement, que le moi conscient se faisait des illusions sur lui-même et qu'il n'était finalement que le produit de structures inconscientes, de l'ordre des pulsions, soit de l'ordre des désirs, voilà.
Et en quoi la psychiatrie, selon vous, a-t-elle bénéficié des apports de la psychanalyse ?
Ben, par effet de surprise, je crois. c'était un cadrage tellement nouveau, en fait, de dire, il y a un inconscient, ce que nous racontent les gens, ça a un sens par rapport à leur histoire, leur inconscient. Et que donc ça produit un recadrage à ce moment-là vers l'histoire des personnes, le fait qu'ils... C'était peut-être plus encore le cas, mais enfin, on n'était peut-être pas si loin que ça. Enfin, ça décentrait complètement de la magie, de la magie ou de la sorcellerie qui a prévalu à une époque pour expliquer certains comportements insensés, on va dire. Mais en tout cas, cette explication qui l'amène à ce moment-là, produit, et on le voit encore aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, dans l'inconscient des gens, en fait, ils pensent comme ça.
Pendant de longues années, Freud peine à convaincre la communauté médicale de l'intérêt de ses recherches et de ses théories. Il est isolé. Ses découvertes sont souvent ignorées, raillées ou attaquées. Toutefois, à partir de 1902, un petit groupe de jeunes médecins désireux de découvrir la psychanalyse et de la diffuser se réunit dans le cabinet de Freud à Vienne les mercredis. 1908, la Société psychologique du mercredi devient la Société psychanalytique de Vienne et le modèle d'une vingtaine d'associations analogues à travers le monde. Progressivement, ces cercles de psychanalyse s'ouvrent à des adeptes non médecins. 27 avril 1908, des médecins de différents pays se réunissent à Salzbourg, en Autriche, afin de discuter de leur intérêt commun pour la psychanalyse. 1910, lors d'un deuxième congrès international de psychanalyse réuni à Nuremberg, est fondée l'Association psychanalytique internationale. Attention ! Ne pas voir dans l'émergence de ces sociétés nationales et internationales de psychanalyse la naissance d'une communauté unie et pacifique, mais plutôt le début d'une longue histoire de débats, de divergences et de conflits entre les différents membres ou associations adhérentes. Parmi les sujets de discorde, la question de la formation des analystes, des points de théorie et de pratique comme la durée des séances, mais aussi le fonctionnement interne de ces mêmes institutions psychanalytiques. certains désaccords aboutiront à des dissidences, des exclusions, des scissions et, comme nous allons le voir, à l'émergence de nouveaux courants, de nouvelles associations ou écoles de psychanalyse. Ce qui n'empêche pas qu'aujourd'hui, certaines associations psychanalytiques travaillent ensemble. Mais revenons au XXe siècle.
De toute façon, même au début de la psychanalyse, se posait déjà la question de qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas dans sa pratique pour que ça reste de la psychanalyse. Freud se séparait, ou du moins a pris des distances par rapport à certains de ses disciples qui voulaient déjà apporter des variations.
Mais est-ce que aussi il n'y a pas une question d'ego dans tout ça?
Alors j'ai interrogé un psychanalyste il y a quelques semaines qui me disait la psychanalyse c'est une pratique sans standard mais qui n'est pas sans principe. Qu'est-ce que la psychanalyse? Jusqu'où c'en est? À partir de quand c'en est plus?
Permettez-moi d'interrompre le cours de notre petit voyage spatio-temporel. Je suis en train de réaliser que nous poursuivons notre promenade entre Châteaubriand et Nantes, de gare en gare, de date en date, tranquillement, sans incident, et je crains que cette tranquillité ne vous laisse penser que la découverte freudienne ait été quelque chose qui alla de soi. Mais la découverte freudienne fit scandale en son temps. Elle s'est heurtée à une résistance massive et comme vous venez de l'entendre, certains disciples de Freud eux-mêmes ont rejeté les concepts les plus dérangeants inventés ou développés par leur maître. Non seulement la conception freudienne de l'inconscient a bouleversé le savoir de l'homme sur lui-même, mais elle a mis en lumière les aspects les plus refoulés de son existence. Pour ne citer que quelques concepts, notons ceux de libido, de sexualité infantile, de bisexualité, de pulsion de mort. 1926, fondation de la SPP, Société psychanalytique de Paris. 1934, le penseur viennois Karl Popper publie Logique de la découverte scientifique.
Les thèmes de la psychanalyse plaisent beaucoup aux élèves, et comme ensuite on est censé avoir un regard critique sur le texte, ça va me permettre aussi de désinguer Freud un petit peu à coups de neurosciences et à coups de Popper, de critique de la scientificité, de la psychanalyse, etc.
D'un point de vue science, la psychanalyse, c'est pas une science. Parce que c'est pas testable. Oui. Une science, ça doit être testé. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir trouver des conséquences de la psychologie, de la théorie, que les tests, ou les expérimentations, cherchent à remettre en question. Les expérimentations scientifiques ne cherchent pas à prouver la théorie, mais à dire le contraire d'elle. Et finalement, la théorie est admise parce qu'elle résiste à ces... Or, la psychanalyse ne peut pas. Ça a été démontré, puisque si vous contestez la psychanalyse, la réponse est que si vous contestez la psychanalyse, vous résistez, ce qui est la preuve du refoulement. Donc vous êtes c'est dans un complet cercle vicieux, et c'est donc pas testable, et donc c'est pas une science. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un discours, c'est un dispositif vivant, et puis donc c'est une œuvre de Freud, c'est une œuvre de pensée, enfin, du moins pour moi.
Alors, je vérifie que j'ai bien tout ce qu'il me faut pour l'interview. Le questionnaire pour le psychanalyste. La naissance de la psychanalyse aux presses universitaires de France. Ma bouteille d'eau. Et mon pique-nique. 1936. Alors que la montée des fascismes en Europe menace les juifs, Freud et ses livres, l'Association psychanalytique internationale bascule dans le monde anglophone sous l'acronyme IPA, pour
International Psychanalytic Association.
Mm-hmm. 23 septembre 1939. Freud meurt, exilé à Londres. Qu'elle soit controversée, caricaturée, simplifiée, détournée ou admirée, la découverte freudienne est alors incontournable dans les débats psychiatriques, psychologiques, philosophiques et littéraires. Le cellophane n'a pas tenu. Oh non, je le crois pas, il y a de la sauce dans tout le sac. Oh non, il y en a même dans mon bouquin. Ah ben, je vais avoir l'air fine à mon interview avec ma naissance de la psychanalyse aux presses universitaires de France et à la sauce tomate. Pfff. les années 1950, début de l'ère de la psychopharmacologie. Les neuroleptiques, les anxiolytiques, les antidépresseurs font leur entrée dans les hôpitaux psychiatriques et modifient radicalement la prise en charge des patients. 1953. Après un conflit d'une année, 5 membres de la Société psychanalytique de Paris, dont Daniel Lagage, Françoise Dolto et Jacques Lacan, démissionnent de l'ASPP, ce qui entraîne leur radiation de l'IPA, et participent à la fondation de la Société française de psychanalyse. De 1951 à 1979, Jacques Lacan transmet son enseignement. 2 années chez lui, puis publiquement. D'abord à l'hôpital Sainte-Anne, devant un public restreint de disciples, puis à l'École normale supérieure, devant un auditoire plus large, et enfin à la faculté de droit du Panthéon, face à des centaines d'auditeurs. Au cours de ce séminaire, Lacan fait la démonstration que, loin d'être sclérosée, dépassée ou normalisatrice, la pensée de Freud est, je cite, « la plus perpétuellement ouverte à la révision ».
Notre train TER, Pays de la Loire, arrive en gare de Nantes. Terminus du train. En train, tous responsables. Avant de descendre, assurez-vous d'emporter toutes vos affaires personnelles et merci de ne laisser aucun déchet à votre place. Nous remercions de conserver votre masque à bord, sur le quai et en gare.
1963. Désireuse de réintégrer l'IPA,
International Psychanalytic Association.
L'Assemblée générale de la Société française de psychanalyse vote la radiation de Lacan de la liste des analystes didacticiens, c'est-à-dire des analystes habilités à former les futurs psychanalystes, Lacan refusant de se soumettre à certains principes de l'instance internationale. 1964, Lacan fonde sa propre école, l'école freudienne de Paris. De leur côté, les membres de la Société française de psychanalyse, fidèles à l'IPA, font de l'APF, l'Association psychanalytique de France. 1968.
D'une certaine façon, toute la société a remis en question, pendant un laps de temps, ces structures telles qu'elles fonctionnaient, quoi.
1969, année pas si érotique que ça. Opposée à la PASSE, procédure de passage de l'état d'analysant à celui d'analyste inventée par Lacan, 5 membres démissionnent de l'École freudienne de Paris et fondent une 4e société française de psychanalyse, c'est le 4e groupe. Les années 1960-1970. Vague antipsychiatrique. Michel Foucault soutient sa thèse « Folie et déraison, histoire de la folie à l'âge classique » et dénonce le pouvoir psychiatrique dans son cours au Collège de France.
Alors, est-ce que ça ne correspondait pas à un moment aussi un
et
peu
ça correspondait à un certain nombre d'auteurs. Par exemple, c'était Freud était resté assez marginal en France jusque-là. C'est Lacan qui a fait, tout en déformant complètement ce que la psychanalyse, en notant tout ce qu'il y avait de pulsion, par exemple, et de biologique, parce que c'est contemporain du mouvement linguistique aussi, d'Althusser, etc. Oui, donc il y a eu un certain nombre d'auteurs qui, dans deux domaines différents, comme Foucault, par exemple, ou autres, ont gravité autour de cette notion d'inconscient. L'évolution avec Lacan, d'ailleurs, ça a été de passer d'une psychanalyse de cure, de soins, à une psychanalyse de découverte de la vérité de soi-même. Ça suit plus philosophique, on pourrait dire. Donc ça, c'était l'évolution.
Mesdames, messieurs, nous arrivons dans quelques instants. En revenant ce terminus de notre train. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à votre place. Prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai. Au nom de toute
l'équipe
TER, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.
Une prestation de Lacan à Vincennes, dans les années 70. Alors il y avait foule, des étudiants, mais pas seulement des étudiants. Il y avait des tas de... C'était trisneux, pour reprendre un mot. Alors c'était tri-hiérarchisé. Alors il y avait Lacan qui trônait au milieu d'un bureau. Puis il y avait son gendre,
Jacques-Alain Miller.
Ouais, c'est ça. Puis ils avaient visiblement une hiérarchie. Et certains pouvaient parler, d'autres pas. Enfin, c'était assez bizarre. Puis alors, il y avait des dames de la haute société. Et à l'époque, ils faisaient un truc sur ce qu'il appelait les nœuds broméens. Et alors, il a commencé, et là, ils ont tous sorti une chambre à air. Et ils ont fait des nœuds robéens pendant la les chasseurs allaient voir tordre leur parce que c'était une application de la topologie, en fait. Alors, c'était vraiment de la libre association, c'est-à-dire avec des jeux de mots, des...
Des néologismes.
Voilà, c'est ça. Ça ressemblait beaucoup à ce que faisait Heidegger dans son œuvre, c'est-à-dire jouer sur l'étymologie des mots. Bon, finalement, moi, ça m'a plutôt fait rire qu'autre chose. Hein, j'en ai pas. Alors, j'ai lu Lacan, j'ai écrit tout ça. Je sais pas, j'arrive. Bon, je connais. À l'époque, c'était le structuralisme, lui, Tusser, lui aussi. Lévi-Strauss, évidemment.
Au cours des mois qui précèdent l'année de sa mort, Jacques Lacan fait dissoudre son école. Cette dissolution provoque la naissance progressive d'une multitude d'associations lacaniennes, parmi lesquelles la cause freudienne, fondée par Lacan lui-même, bientôt rebaptisée l'école de la cause freudienne, l'association lacanienne internationale, le cercle freudien, les cartels constituants de l'analyse freudienne, etc., etc.
C'est-à-dire dans le cursus d'études des psychiatres, enfin, tel que je l'ai connu, je pense que ça a fondamentalement changé, enfin, avec les éléments plus actuels sans doute, mais enfin, en tout cas nous on avait sur 4 ans un travail de clinique, etc., de l'enseignement de ce qu'on appelle la psychiatrie, des fondamentaux, de l'historique, etc. Et puis après toutes ces techniques psychothérapiques, donc il y a à l'époque... La psychanalyse était très dominante, on va dire, dans les...
C'est indiscret de vous demander dans quelles années c'était.
Non, pas du tout. Ben, je suis retraité, là. Ben, dans les années, 80... Fin des années 80, 90. Enfin, moi, j'ai fait ma formation dans la deuxième partie des années 80, oui. Notre formation était très imprégnée par... les concepts de psychanalyse qui imprégnaient énormément la psychiatrie en se courant à ce moment-là. Donc si on ne faisait pas à l'époque psychanalyse ou si on n'envisageait pas sous l'angle d'une lecture psychanalytique les choses, ça ne faisait pas dire qu'on faisait toujours de la psychanalyse, mais une grille de lecture psychanalytique, on était vite quand même classé comme un psychiatre... psychiatre généraliste, quoi, enfin, qui faisait, qui appliquait honnêtement et soigneusement, diagnostic, traitement, objectif, etc., modèle médical. La psychanalyse avait une grande place. Et donc on avait beaucoup de séminaires, en fait. On s'inscrivait à des séminaires qui étaient animés par des psychiatres, ou pas que d'ailleurs, je pense. Si c'était sur la psychanalyse, vous pouvez voir un psychanalyste, je ne sais qui, mais qui animait un séminaire sur tant de cours dans l'année, par exemple. Il y avait des conférences, etc. Il y avait des séminaires sur la systémie, qui était déjà un grand courant à ce moment-là, autre que la beaucoup moins en vogue, mais qui se développait beaucoup avec les thérapies familiales. Et puis toute la théorie du double lien, là, qui est arrivée aussi dans les années 50, je crois, quelque chose comme ça. Ça, c'était quand même les deux grands courants. Ben, il y avait des choses sur les traitements, évidemment. Il y avait déjà un choix, en fait, dans la formation, en parlant, là, des orientations qu'on avait envie de prendre en tant qu'étudiant pour plus tard, quoi. Voilà. Bon, moi, j'avais pris les options psychanalytiques.
1992, le gendre de Lacan, Jacques-Alain Miller, fonde l'Association mondiale de psychanalyse.
Je pense qu'on donnait peut-être moins de façon systématique des médicaments pour des troubles, on va dire, communs, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants, comme les dépressions et l'anxiété, bon, les problèmes anxieux qu'on voit beaucoup. Je pense qu'on donnait moins facilement des antidépresseurs qu'aujourd'hui, alors que maintenant ils sont prescrits la plupart du temps d'abord par le généraliste, puis ensuite le psychiatre se débrouille avec ça, si je peux dire. Alors qu'avant, les généralistes se contentaient de prescrire quelques anxiolytiques. Voilà. Je pense qu'il y a une augmentation des prescriptions de traitement par l'ensemble des médecins et sans doute aussi des psychiatres. Je pense que les antidépresseurs sont prescrits beaucoup plus facilement, mais aussi parce qu'ils sont beaucoup mieux tolérés, en apparence en tout cas, mais je pense aussi. Par contre, à une époque, moi je sais pas, au début de ma pratique, notamment à l'hôpital, on prescrivait des doses de médicaments quand les médicaments étaient prescrits, qui étaient assez énormes, quoi. Il y avait des ordonnances beaucoup plus longues qu'aujourd'hui, et notamment dans le champ des psychoses, les doses de neuroleptiques étaient extrêmement grandes, fortes, mais peut-être que les médicaments ont évolué aussi, mais enfin tout ça, à la fois peut-être qu'on prescrit plus de médicaments, ils sont mieux contrôlés dans la prescription. Sauf peut-être, on peut discuter sur l'excès de prescription, la grande prescription de la famille des antidépresseurs et des anxiolytiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de modèles de thérapie. La psychanalyse a perdu un peu de son panache, on va dire. Dans les années 80-90, ça existait déjà, je pense, aux États-Unis, mais sont arrivés les thérapies cognitivo-comportementales. Donc là, ça commençait à batailler entre les tenants de ça et de ça. Ça continue, apparemment. Et puis, qui manifestement ont pris de plus en plus de place dans les modèles hospitaliers ou de pratiques individuelles. Voilà.
Maintenant, il y a des thérapeutiques qui sont assez mélangées. On a beaucoup complexifié les thérapeutiques. Et maintenant, c'est un mélange d'un peu de psychanalyse, de libre association, par exemple, ou de comportemental et autres. Le divan pur, comme le pratiquait Lacan et autres, c'est bon, plus les problèmes quand même matériels et financiers que ça pose aussi, qui ont été déjà critiqués à l'époque. Quoi.
C'est-à-dire que les facs aujourd'hui vont de moins en moins enseigner la psychanalyse. À tort ou à raison, hein. Je ne juge pas. Mais c'est vrai que c'est une méthode qui n'est pas reconnue scientifique et qui, du coup, dans les facs, va pas forcément être privilégiée. Moi, je pense que c'est un tort parce qu'il y a quand même, dans la psychanalyse, tout un tas d'éléments qui sont très intéressants, en fait, à pouvoir garder, notamment dans le fonctionnement psychique. Mais je trouve ça aussi dommage de n'être que dans un outil. Parce que, si je puis me permettre, je dirais que quand j'ai besoin d'enfoncer un clou, j'utilise un marteau et pas un tournevis.
Votre attention, s'il vous plaît. Pour votre sécurité lors de votre descente, prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai.
À la télé, on invite toujours un psychologue à la radio, un psychanalyste pour expliquer, tiens, mais pourquoi tel problème,
Je trouve qu'on interroge de plus en plus des neuropsychologues.
Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Oui. Mais en fait, on cherche toujours une explication. On veut toujours amener une explication. Il y a encore beaucoup de psychanalystes sur France Culture, notamment. Mais c'est bien, hein. Souvent, ils sont très intéressants. Mais... Dans toutes les émissions, la psychologie, où les gens appellent, c'est quand même souvent.
Ah ouais.
Alors, je trouve. Hein. Mais je sais pas, vous avez raison, en tout cas, il y a de plus en plus de neuropsy. Hein,
oui, j'ai l'impression
que ouais. Bien sûr, c'est dans l'air du temps.
Est-ce que vous pensez que l'essor des neurosciences et que l'enthousiasme qu'ils suscitent pourraient faire réduire l'aspect psychanalytique de l'inconscient à une place complètement marginale, voire carrément disparaître ?
Disparaître, non, mais je pense qu'on va avoir une lecture de plus en plus critique de la psychanalyse, mais ça, c'est pas un mal. C'est bien, et je crois que Freud lui-même aurait été très content qu'on n'ait pas une lecture bête et méchante de ses textes et de ses œuvres, mais qu'on en ait une lecture critique, quoi. Je veux dire, c'est l'évolution de la science, hein. Il est le premier dans ce fameux texte « Une difficulté de la psychanalyse », Il est le premier à dire que la science évolue et que toute nouvelle science amène à remettre en question justement les conceptions qu'on avait auparavant. Alors peut-être qu'il serait un petit peu gêné au niveau de son ego de voir qu'il fait partie aussi des disciplines qui sont critiquées par les avancées de la science. Mais voilà, c'est la vie, hein. C'est comme ça que la science évolue et toute nouvelle discipline remet en question celles qui l'ont précédée dans un champ d'études comparable. Les neurosciences elles-mêmes seront remises en question dans quelques dizaines d'années par une nouvelle science qui apparaîtra et qui montrera que c'est pas si simple que ça.
Et tu crains pas quand même que dans les années ou les décennies à venir, le fait que si ça doit advenir, hein, que les neurosciences occupent complètement l'espace et de la recherche et de la théorie et des thérapies, est-ce qu'on n'encourt pas le risque que l'être humain soit réduit à un cerveau?
Alors ça dépend, parce que ça dépend quel neuro... Ça, oui, ça, c'est un risque, mais dans toute science, il y a aussi des... Il y a des risques, hein, et, oui, c'est un risque. Ça dépend des auteurs. Oui, il y a un risque, mais en fait, qu'est-ce que font les neurosciences actuellement? Ils voient qu'une image mentale, ils disent, bon, à telle émotion va correspondre une image mentale, mais quel est le rapport entre l'émotion et l'image mentale? Et ça, ils sont incapables de le dire. Hein. C'est intéressant, parce que ça permet des choses. Mais c'est comme toute science, c'est un moment dans un développement. Ça se voit bien dans le virus, que, justement. Ils sont loin d'avoir une certitude. C'est les médias qui présentent les sciences comme si c'était des... En fait, non, c'est des théories avec des expérimentations qui progressent comme ça, à coup de crise, d'ailleurs.
Oui.
Oui, bonjour, monsieur Porcheret, c'est Nathalie Marsac pour Radio Châteaubriand.
Vous rentrez directement et vous allez dans la salle d'attente.
Très bien.
Lacan essaie de rendre compte de l'expérience analytique, mais en même temps, ce qu'il apprend à partir de l'expérience analytique en tant qu'analyste, ça lui permet de dégager un autre aspect de la psychanalyse en dehors de la cure analytique elle-même. Cet autre aspect, c'est la manière dont la psychanalyse, comme un des grands discours comme tel, peut venir interroger les impasses rencontrées par le discours de la science, rencontré aussi par le discours du maître moderne. Et ça, c'est un point très important, ce qui fait que l'on peut dire que, loin d'être une chose vieille, la psychanalyse, en tout cas d'orientation lacanienne, qui la tire en avant, permet aussi d'interroger les impasses, certaines impasses en tout cas, que nous rencontrons dans notre société. Et ça, c'est un point majeur, parce qu'il y a la psychanalyse, il y a sa dimension clinique, il y a sa dimension éthique et il y a sa dimension politique. C'est ce que je viens d'énoncer, sa dimension politique. Elle a un rôle à jouer dans la lecture que l'on peut faire des faits de société, comme les phénomènes trans actuellement, comme les phénomènes woke, dont le phénomène trans fait partie, tous les phénomènes de victimisation ou de revendication de minorités. Et c'est tout à fait important de pouvoir écouter, au fond, ce qui se dit là, et peut-être de pouvoir l'interpréter. Et là, dans ce sens-là, la psychanalyse, le discours analytique comme tel, peut nous aider à saisir, en tout cas, à éclairer ces mouvements parfois obscurs qui sont bien présents dans nos sociétés occidentales.
Voilà, nous arrivons au terme de notre promenade et de notre frise chronologique. On peut lui reprocher bien des choses. Elle ne fait pas allusion à des événements majeurs de l'histoire mondiale qui ont pourtant marqué l'histoire de la psychanalyse et ses acteurs. Elle mélange volontiers des éléments disparates d'histoire de la psychanalyse, de la psychiatrie, des sciences, de l'enseignement. Bref, elle est complètement mal foutue. Mais elle respecte une contrainte déterminante à mes yeux. Donner la priorité aux rencontres suscitées par la réalisation du podcast et aux propos tenus lors des interviews. Et puis, elle permet d'introduire quelques dates, figures et noms du mouvement psychanalytique dont on entendra parler dans la suite du programme. Elle montre également que la psychanalyse est animée par une diversité de points de vue. Et enfin, que sa place n'a cessé d'être remise en cause par certains, tandis que d'autres se sont chargés et continuent de se charger de la défendre. Bref, de quoi s'interroger sur l'actualité et le devenir de la psychanalyse. Et de poursuivre un podcast. Vous venez d'entendre le chapitre 4 d'En cours d'analyse, un podcast de Radio Chateaubriand. Plus d'informations sur le site radiochateaubriand.com.